Il y a un nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi numéro 71 qui veut essentiellement rendre obligatoire de détenir un permis de conduire pour être au volant d'un véhicule hors route, comme les VTT et les motoneiges. On en parle aujourd'hui avec le porte-parole de Transport Québec, Gilles Payet. Bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, pourquoi exiger un permis de conduire aux personnes qui circulent en VTT ou en motoneige là, sur les terres, en fait sur les sentiers publics à travers le Québec?
Ben, il y a plusieurs problèmes, malheureusement, dans la pratique de cette belle activité qui est très agréable, que sont les motoneiges, les VTT, les VHR, qu'on appelle les véhicules hors route. Et parmi les problèmes, c'est les décès. Le nombre de décès est beaucoup trop élevé. Le nombre d'hospitalisations est beaucoup trop élevé. Malheureusement, les véhicules hors route arrivent au premier rang des décès associés au sport et aux activités récréatives. Ce n'est pas normal. Une deuxième cause d'hospitalisation, ça veut dire des centaines d'hospitalisations chaque année pour les motoneiges et pour les VTT, c'est encore plus. Alors, il faut améliorer donc la sécurité pour les usagers et pour tout le monde. En imposant le permis de conduire, ça assure quand même quelques petites choses très, très importantes. Pourquoi il y a des décès et des hospitalisations, c'est parce que les causes d'accidents, les causes de collision, les causes de décès, c'est l'inexpérience, c'est la vitesse, c'est l'alcool. Ce sont des choses qui, quand vous imposez un permis de conduire, deviennent beaucoup plus contrôlables parce que l'inexpérience, ben vous avez plus d'expérience si vous avez un permis de conduire parce que vous savez ce que c'est que de maîtriser un engin. Vous êtes conscient beaucoup plus de l'effet de la vitesse. Et évidemment, l'alcool, ben ça va être interdit dans les sentiers comme ça l'est sur la route et personne ne veut perdre son permis de conduire, c'est clair.
Si je me trompe pas, en ce moment, il y a des jeunes là, qui peuvent conduire des VTT ou des motoneiges. Je crois qu'il y a des formations qui existent, mais est-ce que ça veut dire que ces jeunes-là qui conduisent déjà des motoneiges ne pourront pas pouvoir conduire avant d'avoir leur permis de conduire là, vers l'âge de 16 ans?
Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas un permis de conduire. Pour votre information, il y a quand même la majorité, l'immense majorité des usagers de VHR, de véhicules en route, ont déjà un permis de conduire. C'est 97,6%, c'est presque tout le monde. Alors, pour ce qui est des jeunes de 16 ans, bien évidemment, à 16 ans, on peut obtenir un permis de conduire et le permis probatoire sera accepté pour conduire un véhicule en route.
Donc, on peut dire que, en fait, pour conduire un véhicule hors route, ça va être les mêmes, la même, peut-être pas le même fonctionnement, mais la même façon de voir les choses que pour le permis de conduire, donc attendre l'âge minimal pour pouvoir conduire tout simplement, si je comprends bien.
La loi 71 va prévoir quand même certaines exceptions. C'est une loi que je vous invite à lire. Elle est sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pouvez d'ailleurs commenter ce projet de loi-là. C'est un projet de loi de 146 articles, 50 pages. Ça a l'air beaucoup, mais ça se lit très bien. Cela dit, l'exception qui existe, c'est-à-dire que si vous êtes sur un terrain privé, vous êtes sur la terre de votre grand-mère, votre grand-père, puis là, vous avez 15 ans, ben on peut vous laisser conduire un véhicule hors route s'il y a surveillance par une personne majeure à côté qui va pouvoir vous suivre aussi avec vous, si vous circulez sur un terrain privé. Ça, il y a une exception que la loi prévoit quand même.
Ah, OK, donc il y a quelqu'un qui doit accompagner quand même la personne qui n'a pas son permis de conduire.
Sur un terrain privé, oui.
D'accord, je comprends mieux. Et si on va justement un peu plus en détail dans ce que propose le projet de loi qui a été déposé cette semaine par le ministre des Transports, qu'est-ce que ça change, là, sinon, pour les autres amateurs de ces activités-là? Est-ce qu'il va y avoir des changements dans les formations, par exemple?
Il y a quand même pas mal de choses importantes. Ce que les clubs et les fédérations et l'industrie ont dit au ministre des Transports depuis un certain temps, c'est que c'est bien beau d'avoir des règles, c'est bien beau d'avoir des lois, mais il faut avoir les moyens de les faire observer. Et une des grandes différences, c'est que il y aura des pouvoirs plus grands qui vont être accordés aux inspecteurs, aux agents de la paix dans les sentiers. Ça veut dire qu'ils vont avoir des pouvoirs qui pourraient aller jusqu'à saisir un véhicule si votre échappement est modifié, si vous voulez pas produire vos papiers, parce que là, vous pouvez être arrêté dans un sentier, puis vous allez devoir répondre à l'agent de la paix et montrer votre preuve d'assurance responsabilité, votre preuve d'immatriculation, votre permis de conduire. Alors, vous comprenez que ça rend la pratique plus sécuritaire, parce que là, vous savez, vous pouvez vous faire prendre par quelqu'un qui a le droit de vous arrêter, entre guillemets, là. Je dis arrêter, c'est pas une police, là, mais les agents de surveillance peut-être des bénévoles qui travaillent pour des clubs. Ces gens-là vont avoir plus de moyens de faire observer les règlements, donc tout ça va rendre la pratique plus sécuritaire.
Évidemment, on parle toujours des sentiers publics. Est-ce que d'autres éléments n'y rencontrent?
C'est-à-dire que les voisins de sentier seront tenus d'accepter les inconvénients. Mais en même temps, ça veut dire aussi que les usagers de véhicules en route ont le devoir de respecter les limites de vitesse, de ne pas filer à plein gaz à proximité des résidences, de demeurer dans les sentiers qui sont légalement aménagés. Alors, si vous avez les distances aussi, les sentiers vont être aménagés à des distances qui sont beaucoup plus claires et précises dans la loi. C'est-à-dire que normalement, les nuisances devraient être pas mal réduites, mais en même temps, ça veut dire que vous pouvez pas empêcher les gens de passer en motoneige ou en VTT à proximité légale de votre résidence, mais à condition que tout ça soit fait dans les règles. Vous savez, c'est comme avoir une route. Vous habitez en face d'une route, vous pouvez pas faire fermer la route. Alors, il y a tellement de sentiers, il y a tellement de motoneige et de VTT, il y a tellement de kilomètres de sentiers qu'il faut absolument donner ou respecter le droit aux utilisateurs de faire de la motoneige et du VTT.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qui arrive avec les excursions, les guides là, qui s'occupent de tout ça, la location aussi des véhicules en route? Est-ce qu'il y a des choses qui changent de ce côté-là?
Ça, c'est une chose très importante. Et c'est bien d'en parler parce que la formation pour les guides va devenir obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des expériences d'une journée ou d'une fin de semaine ou d'une semaine de vacances. Puis évidemment, on sait qu'avec la réduction du nombre de voyages, il y a de plus en plus de gens qui vont probablement s'adonner à ce genre d'activité au Québec et qui vont aller loin. Alors, avec une formation obligatoire, maintenant, les guides vont pouvoir mieux encadrer les gens qui font de la motoneige ou du VTT pour la première fois ou pour une des premières fois. Donc, on devrait être capable de contrôler les causes de décès et d'hospitalisation, comme je disais tantôt, inexpérience, vitesse, alcool, ce genre de choses.
D'accord. Donc, au final, il y aura un meilleur encadrement, là, comme vous venez de le mentionner. Et je suis curieuse, en fait, lorsqu'on parle de d'autres activités, je pense à la pêche, par exemple, ça prend un permis de pêche. Même chose pour la chasse, un permis de chasse particulier pour ces activités-là. Pourquoi ne pas mettre un permis de véhicule hors route, tout simplement?
Ben, en mettant, c'est plus simple d'appliquer tout simplement l'obligation du permis de conduire. Alors, le permis de conduire aussi, c'est que, un, il existe déjà, il fait preuve que vous avez une formation, une certaine expérience, et aussi le fait que l'alcool peut être un problème au guidon, si on peut dire, ben le fait de pouvoir perdre ou de risquer de perdre votre permis de conduire dans la vie de tous les jours, ben c'est sérieux, ça devient très, très sérieux, et ça devient un incitatif à respecter davantage les lois. Vous savez, quand on est dans le bois, en forêt, on est loin, on pense qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on est libre, qu'il n'y a personne qui nous surveille. Mais ce sera désormais un peu moins vrai. C'est-à-dire, vous allez avoir la liberté de pratiquer le sport et l'activité comme vous voulez, mais il va falloir tout simplement respecter les règles. C'est pas compliqué. Quand il y a un stop au coin de la rue, ben même s'il n'y a pas de police qui me surveille, moi, je fais mon stop quand même. Alors, ça va être le même genre d'habitude qu'il va falloir avoir en sentier. Et d'ailleurs, les pénalités dans la nouvelle loi seront plus élevées. Alors, il y a beaucoup de monde qui pratique le VTT et la motoneige. Il faut absolument faire quelque chose de plus sérieux pour encadrer. Et les clubs et les autorités sont tout à fait d'accord avec ce resserrement dans la nouvelle loi.
Il faut dire aussi que de notre côté, à Fermont, c'est des activités qui sont très, très populaires vu notre situation géographique déjà. Justement, est-ce que vous avez eu l'occasion au ministère des Transports d'évaluer l'impact que pourraient avoir ces changements dans les différentes régions, dans les différents clubs? Est-ce que vous avez une idée? Bon, on s'entend, l'impact que vous souhaitez avoir, c'est vraiment une meilleure sécurité, moins d'accidents, moins de décès, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a d'autres impacts qu'on pourrait remarquer là, avec les changements qui sont proposés?
Ben, une loi ne s'improvise pas. Évidemment, la loi sur les véhicules hors route existe depuis 1996. Elle a été révisée à quelques reprises, mais l'industrie change, les véhicules changent, le monde évolue. Alors, cette nouvelle loi-là, elle a été conçue en consultant les fédérations, les clubs, les utilisateurs, l'industrie. C'est une activité économique qui est très importante aussi. C'est pas négligeable. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que tout le monde est pas mal content qu'on aille dans cette direction-là. Et il y a des articles de loi qui ont été directement inspirés de ce que le milieu nous disait. Alors, quand on dit qu'il faut donner plus de pouvoir aux agents de surveillance pour contrôler les véhicules, c'est forcément une chose importante. Alors, ça a été mis dans la loi en conséquence, donc l'impact devrait être positif.
Est-ce qu'il y a une réflexion particulière qui a mené ou un élément déclencheur là, qui a mené à la décision de déposer un tel projet de loi au ministère ou bien, en fait, à l'Assemblée nationale, ou bien est-ce que c'était déjà quelque chose là, qui était réfléchi depuis déjà plusieurs années?
Ben, depuis plusieurs années, parce que quand je vous parlais de décès d'hospitalisation, si on regarde les chiffres sur 10 ans, 2009-2019, Ben, c'est 270 décès à motoneige, c'est 311 décès en VTT. Faites le calcul, il y a une vingtaine de décès chaque année depuis 10 ans. C'est beaucoup trop. Ce n'est pas normal que les gens meurent en pratiquant un loisir ou une activité récréative. Alors, quand on voit avec les rapports de police, l'expérience, tout ça, bon, on voit les causes. Alors, c'est ce que la loi vient tenter de corriger et d'encadrer le plus possible pour que la pratique soit sécuritaire pour tous. Et qu'on soit à Fermont ou à Saguenay ou à Rimouski, ben forcément, ça n'empêche pas de pratiquer le sport et d'aller à la chasse. Il faut juste simplement être plus prudent parce que les chiffres disent qu'il y a trop de décès. Alors, c'est ce que la loi vient corriger.
Bien sûr, c'est sûr qu'il faut se rappeler le mot « vigilance » souvent. C'est un mot qu'on répète souvent ces temps-ci, mais je pense que c'est un mot qu'on peut utiliser à juste escient là, pour ce genre de situation-là. Moi, là, c'est un projet de loi, c'est pas une loi qui a été adoptée encore dans sa bonne et due forme. Comment vont se passer les différentes étapes dans ce projet de loi? Est-ce qu'il va y avoir des consultations auprès des différents groupes qui sont concernés? Comment ça va se passer tout ça?
Mais comme je disais, sur le site Internet de l'Assemblée nationale, à la première page, vous avez un lien pour les projets de loi. Puis vous allez trouver facilement le projet de loi 71 et il y a un lien pour commenter le projet de loi. Moi, j'invite les gens à tout simplement aller feuilleter les quelques pages du projet de loi, regarder les articles ou prendre une mesure en particulier et la commenter. Ce sera tenu en compte. Évidemment, les membres de l'Assemblée nationale, leur job, leur travail, c'est de lire ces lois-là et de proposer des corrections. Ça peut mener à des amendements, puis ensuite des votes, puis ensuite une adoption. Donc, on parle d'un projet de loi qui peut être tel quel ou qui peut être légèrement modifié à son adoption, qui peut arriver dans quelques jours, quelques semaines ou sûrement avant la fin de l'année.
Vous vous attendez à ce que le projet de loi passe d'ici la fin de l'année?
C'est difficile à dire ça d'avance. C'est très difficile à dire, mais normalement, la loi telle qu'elle est faite, elle est plutôt unanime dans le milieu. Alors, sauf erreur, cette loi-là devrait être applaudie par tous et chacun.
De fortes chances. On peut résumer ça comme ça. Monsieur Payet, est-ce qu'il y aurait autre chose à aborder là, qu'on n'aurait pas discuté, là, qui serait important de mentionner?
On peut peut-être parler d'environnement. C'est sûr qu'on en parle pas, mais c'est inclus dans la loi, c'est-à-dire que l'impact environnemental de la circulation des véhicules en route dans les sentiers, c'est une chose qui est importante et qui va être plus les règles seront plus rigides, on pourrait dire, parce que c'est important de préserver la quiétude des voisins, mais c'est aussi important de préserver les milieux fragiles, la faune et la flore. Alors, la loi 71 va faire la part belle aussi à la protection de l'environnement, c'est important de le dire.
Comment est-ce que ce projet de loi-là prévoit justement faire sa part?
C'est détaillé dans le projet de loi de 146 articles et de 50 pages, mais c'est sûr que de faire des sentiers qui sont à des endroits qui sont moins néfastes pour l'environnement, ça se sera tenu en compte, l'obligation de rester dans ces sentiers-là, l'obligation de ne pas modifier son équipement, de garder sa machine en ordre pour qu'elle ne fasse pas de bruit, qu'elle pollue moins, etc., pour ne citer que ça.
Quand même très intéressant. Donc, on invite nos auditeurs, bien sûr, à se rendre, comme vous l'avez dit, via le site web de l'Assemblée nationale pour consulter le projet de loi numéro 71 qui, essentiellement, si je peux résumer l'essentiel de ce qu'il faut retenir, ça va être la détention d'un permis de conduire qui va devenir obligatoire pour être au volant d'un véhicule hors route, dont les VTT, les motoneiges, également les autres véhicules hors route qu'on connaît. Et évidemment, il y a d'autres éléments qu'on vient d'aborder. Il y en a sûrement d'autres aussi qui sont un peu plus précis, là, qui se trouvent dans le document sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, chose certaine, c'est un dossier qui va retenir vraiment l'attention dans notre région, étant donné que c'est des activités très, très courantes ici. Gilles Payet, vous êtes le porte-parole chez Transport Québec. Merci d'avoir été avec nous.
Bien, ça a été un plaisir, Mme Séguin. Alors, bonne saison à tous.